Vous suivez ou pas les Jeux Olympiques? Vous connaissez peut-être la devise olympique, ces trois mots en latin. Sitius, altius, fortius, plus vite, plus haut, plus fort. Mais même la comité olympique s'est rendu compte que une telle devise peut exclure certains, peut laisser certains sur le carreau. En 1960, ils ont ajouté des Jeux paralympiques pour ceux qui ne seront jamais plus vite, plus haut, plus fort que les autres. Et puis en 2021, ils ont ajouté à la devise, ajouté un quatrième mot, communautaire, c'est-à-dire ensemble. Plus haut, plus vite, plus fort, ensemble. Et je me suis dit que ce matin, il sera utile pendant cet été aussi de rappeler que la devise chrétienne n'est pas forcément plus haut, plus vite, plus fort que les autres. Mais au contraire, le message chrétien et le Christ, son Christ, gravitent souvent vers ceux qui vont moins vite, moins haut, moins fort. Et ce matin, j'aimerais regarder un texte qui décrit une qualité essentielle de Jésus qui peut nous rassurer, nous réconforter. Ce matin, le texte se trouve en Matthieu chapitre 12. On va faire la lecture ensemble. Matthieu chapitre 12, versets 14 à 22. Est affiché sur le mur si vous voulez suivre avec moi. Les pharisiens sortirent et se consultèrent sur les moyens de le faire périr, Jésus. Mais Jésus l'ayant su, s'éloignait de ce lieu. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades et leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Et voici ce que Ésaïe avait annoncé. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point le lumignon qui fume jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice et les nations espéreront en son nom. Alors, on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Les Olympiques viennent éclipser un peu la politique. On a eu droit à une trêve dans le débat politique, mais comme vous savez, dernièrement, il y a eu toutes sortes de prises de parole. Chaque camp essaie de dominer le discours public. Mais dans ce texte que nous venons de lire, Jésus, qui pourtant revendique le titre du roi, il est roi, il est le Christ, eh bien, il se comporte de manière étonnante. Vous l'avez remarqué en verset 15, par exemple, ça commence à débattre autour de sa personne, mais verset 15 dit, Jésus l'ayant su, il s'éloigna de ce lieu. Il s'éloigne des débats publics. En verset 16, une grande foule le suit, fait des miracles de guérison. Mais verset 16 dit, il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître. Donc, un comportement étonnant. Un peu un roi, il fait profit bas. Et ce comportement surprenant pousse Matthieu à faire un commentaire. Et en fait, quand un auteur de la Bible, un auteur des évangiles fait un commentaire, on tend l'oreille. C'est un clé pour comprendre son projet de rédaction. En plus, il va citer le prophète Ésaïe, et c'est la plus longue citation de l'Ancien Testament dans l'Évangile, selon Matthieu. Alors je pense que ce passage n'est pas juste une petite parenthèse, mais cela fait partie des explications qui nous amènent au cœur du projet de Matthieu et au cœur de l'identité de Jésus. Parce que Matthieu voit dans ce comportement de Jésus où il fait profil bas, il y a un côté discret, caché, petit. Il voit dans ce comportement, justement, il voit que ça correspond exactement à la façon que le prophète Ésaïe avait annoncé le Messie bien des années auparavant. Et donc il cite ce passage en Ésaïe 42, que le Messie, il va pas crier dans les rues, il va pas contester. Et puis il poursuit avec verset 20, il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point le lumignon qui fume. Et ce matin, j'aimerais célébrer cette qualité de Jésus qu'on trouve dans ces versets, la manière qu'il ne brise pas le roseau cassé et qui n'éteint pas le lumignon qui fume. Toute la mission et toute l'identité de Jésus se trouve en quelque sorte dans ce verset. Et si nous pouvons nous y reconnaître ce matin, c'est particulièrement encourageant pour nous. En 1631, ce pasteur anglais Richard Sibbes a écrit un petit livre qui s'intitule justement « Le roseau cassé ». Et je l'ai croisé dans la formation de l'histoire de l'Église, je l'ai lu récemment. Très touchant, il arrive à résumer effectivement toute l'offre chrétienne, tout le message de l'Évangile que nous voulons encore voir ce matin. Alors à travers cette image du roseau cassé, puis avec le lumignon qui fume à côté, on va découvrir toute la tendresse et l'attrait de Jésus comme sauveur, comme messie, comme roi. Alors juste trois simples questions ce matin. Qu'est-ce qu'un roseau cassé, humainement parlant, qu'est-ce qu'un roseau cassé? Ensuite, comment Jésus le traite-t-il? Et puis enfin, que vont-ils devenir, ces roseaux cassés, ces lumignons qui fument? Alors donc, creusons cette image. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un roseau cassé? Si on comprend l'image spirituellement. Un roseau cassé, vous savez que c'est une plante qui s'est pliée, qui s'est cassée, mais qui n'est pas encore coupée en deux. Déjà, un roseau n'est pas une plante très solide, plutôt une plante creuse, tige creuse. Et maintenant, il est cassé. Généralement, quand la tige d'une plante est cassée, il n'y a pas grand-chose à faire. La plante peut survivre, c'est vrai, la plante n'est pas morte, entièrement morte, mais elle sera toujours faible, elle sera toujours fragile. Elle peut pas repartir dans la bonne direction, elle peut pas porter du fruit tout seul. Alors, si jamais on veut savoir ce qu'est cette image du roseau cassé, la poésie hébraïque nous aide, et souvent la deuxième phrase complète l'image, et nous aide à comprendre, pour l'expliquer. Donc, il ne brise pas le roseau cassé et il n'éteint pas le lumignon qui fume. Ça aussi, vous avez une belle image de cette petite mèche, un petit lumignon qui fume, qui peine à s'enflammer. Une mèche qui est sur le point de s'éteindre, mais qui n'est pas complètement éteinte. Vous avez en fait cette sortie perfide dans les Pyrénées, et c'est toujours plus vieux, n'est-ce pas? Et il faut démarrer les feux. Et donc il y a un moment critique où il y a ces petits brindilles qui fument, mais ils peuvent s'éteindre et puis on n'a pas de repas, ou bien ça reprend. Et c'est souvent Cédric que vous avez vu qui a la patience, la touche pour faire reprendre. Quand on sort le bidon d'essence, on casse un peu l'image de Matthieu, mais en revenant à cette image, le lumignon qui fume, c'est un côté critique, un côté... on pourrait facilement l'éteindre si on le brusque trop. Donc maintenant, prenons ces deux images, le roseau cassé et le lumignon qui fume, et l'appliquons à nos vies, à nos personnes, à des personnes de notre entourage. Ces deux images synonymes sont très belles pour décrire l'état spirituel des personnes vers lesquelles Jésus est attiré. C'est même une qualité essentielle de ce qu'est le Messie, de ce qu'est le Sauveur, de ce qu'est le roi, le vrai roi. Il ne brise point le lumignon, car il n'éteint pas le lumignon qui fume. Dans le contexte d'Ésaïe, le roseau cassé, c'est l'ensemble du peuple juif face aux puissances impériales babyloniennes. Ce peuple a été comme brisé par son péché, par l'exil. Le peuple est réduit à une petite mèche qui fume à peine et qui risque de s'éteindre avec toutes ces puissances païennes autour. Mais la promesse d'Ésaïe, c'est déjà Dieu ne rejette pas, il va vous envoyer un messie, un roi qui va... prendre soin de ce peuple, effectivement, le peuple juif est toujours là. De même, les chrétiens dans le monde aujourd'hui, on se retrouve assez facilement dans cette image d'un lumignon, d'un roseau cassé. les chrétiens dans le monde aujourd'hui et l'église évangélique en France ressemble souvent à ce roseau cassé. C'est bien, nous n'avons pas de grands moyens, de grandes ressources qui font crier dans la rue pour lancer les grandes contestations en politique ou en éthique. La réalité, c'est qu'on n'entend pas vraiment la voix des évangéliques, tout comme Jésus à son époque. C'est déjà, et puis je pense aux chrétiens, aux églises à Mayotte. Là, les gnoches partent vers voilà, un cadre encore plus critique pour ces petites églises qui entourées par voilà, un monde, une culture qui n'est pas chrétienne. Et ces églises qui, des fois, peinent à exister, peinent à grandir. Donc déjà au niveau peuple, au niveau collectif, l'image est parlante. Mais Matthieu va plus loin, je pense, et il applique cette promesse ou ce trait de Jésus à des individus, pas que le peuple juif, mais des individus au sein du peuple, ceux qui sont faibles, ceux qui sont fragiles, ceux que les pharisiens juifs auraient voulu écarter ou bien auraient écrasé, éteint. Matthieu dit cela juste après que Jésus a guéri l'homme avec cette main sèche dans la synagogue et les pharisiens n'étaient pas très accueillants, commodes envers lui. Mais Jésus l'a tendu sa main vers lui. Et puis juste après qu'on cite ce passage, verset 22, « Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet et le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. » C'est un peu la totale. Il ne peut pas voir, il ne peut pas parler, et puis il est spirituellement esclave, démoniaque. Certainement, tout est lié. Mais qu'est-ce qu'on fait avec de telles personnes? Et pourtant, il se laisse être amené à Jésus, et Jésus peut discerner peut-être déjà une étincelle d'humanité qu'on aurait oubliée. Bah, avec sa condition. Le roseau cassé, allons plus loin dans l'image, le roseau cassé, c'est peut-être quelqu'un qui vit avec des blessures intérieures, cachées. Comme parlait déjà Sylvain, il y a des blessures physiques, visibles, mais aussi des blessures invisibles. Une plante, déjà parmi un champ de roseaux, on ne voit pas forcément lequel s'est cassé et dans un groupe comme celui-ci, des blessures invisibles. Comme vous savez, une plante est très fragile à l'endroit du choc. Ne pouvons-nous pas reconnaître que nous avons des points fragiles, chacun suite à une mauvaise expérience, un mauvais souvenir, un traumatisme. Et puis, quand ces choses sont rappelées, notre foi est comme mise à mal. Le roseau cassé, c'est quelqu'un qui a été déçu, blessé, abusé par la religion, dont la foi a du mal à prendre. Je pense à l'homme avec la main sèche juste avant. Les pharisiens avaient été méchants, sévères envers lui. On comprend qu'une de telles personnes soit déçue de la religion. Comme nous avons cet ami pasteur à Paris qui dit souvent, notre église, on est là pour vous accueillir. Si vous êtes fâché avec notre église, c'est pour ceux qui sont fâchés avec la religion, mais pas fâchés avec Dieu. Et il y en a beaucoup dans ce monde qui le sont, d'être fâchés avec la religion, mais peut-être pas fâchés avec Dieu, ou en tout cas pas avec Jésus tel qu'il se montre ici. Le lumignon qui fume, n'est-ce pas aussi celui ou celle qui a du mal à entretenir la flamme de sa foi à cause peut-être de sa personnalité, à cause de son parcours de vie, à cause d'une situation d'isolement. Vous savez, nous ne sommes pas tous égaux en matière d'accès aux braises qui entretiennent la flamme et la foi. Quand on baigne dedans, c'est peut-être plus facile, pas toujours, mais parfois plus facile d'entretenir la foi, de grandir dans la foi, mais d'autres, un peu isolés, ou ne serait-ce pas une personnalité qui qui décline, la foi décline facilement. Puis le roseau cassé, je pense, c'est celui ou celle qui lutte avec des immaturités récurrentes, des péchés. Vous savez, la fumée n'est pas la partie la plus agréable, utile d'un feu. C'est pas la saison, mais pendant l'hiver, vous avez peut-être chez vous une cheminée, un insert, comme moi. Et des fois, il faut démarrer des feux. Des fois, quand je démarre, ou quelqu'un d'autre de ma famille démarre un feu, on met trop ou pas assez de papier, ou le papier est un peu mouillé. Donc là, c'est la fumée, quoi. On arrive à bien enfumer la maison, mais ça chauffe pas la maison. Et puis là, on nous voit, et puis, c'est encore plus de fumée. Vous connaissez peut-être des personnes comme ça dans votre entourage. Vous êtes vous-même une personne comme ça qui dégage plus de fumée que de lumière et de chaleur. Mais Jésus le voit. Et puis, reconnaissant enfin que dans un sens, nous sommes tous les enfants de Dieu sont des roseaux cassés. Avant leur conversion et beaucoup après aussi, de son après. De toute façon, il faut être cassé pour venir à Christ. Et c'est un grand message de Matthieu tout au long de cet évangile. Jésus est venu pour ceux qui sont cassés, pas pour ceux qui sont forts. Il est venu pour ceux qui sont malades, pas pour ceux qui sont bien portants. Il est venu pour les injustes, pas pour ceux qui se croient justes en tout cas. Je pense que Matthieu lui-même aime bien ce passage, aime bien cette promesse, aime bien ce trait du Messie, parce qu'il se savait lui-même être un roseau cassé, un lumignon qui fume dans sa personne. Il était collecteur d'impôts, donc une certaine réussite financière, professionnelle certainement, mais à l'intérieur, des blessures, et sentiment d'avoir trahi son peuple, une insatisfaction. Et Jésus est venu voir lui, il a su ranimer sa foi. Est-ce que ce matin, vous pouvez retrouver d'une manière ou d'une autre dans ce roseau cassé? Maintenant, voyons comment Jésus les traite-t-il, ces roseaux cassés, ces lumignons qui fument. Selon la promesse, verset 20 dit, il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteint pas le lumignon qui fume. De Jésus, dans sa qualité de sauveur, de messie, de roi, il se prend délicatement, il se prend tendrement, à la différence des autres rois, à la différence des autres religions. Jésus s'est réparé la tige cassée en prenant le temps qu'il faut. Le lumignon qui fume, il s'est soufflé, mais pas trop. Vous savez, il y a une bougie, si vous soufflez trop, la bougie s'éteint, comme sur les gâteaux d'anniversaire. Mais des fois, quand on veut démarrer un feu de camp, on souffle quand même et ça reprend. Alors il faut savoir doser. Lorsqu'on démarre un feu, on peut mettre trop de bûches, trop de bois. Et ça éteint le feu, donc il faut commencer petit. Jésus sait doser son aide et son approche et son amour envers nous. C'est beau de penser que la moindre étincelle d'éveil spirituel, il la voit, il la nourrit, c'est même lui qui la donne. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du fils prodigue, mais pensez à ce fils rebelle, ce fils prodigue qui s'était éloigné de son père. Et quand il revient, en fait, son père, qui est l'image de Dieu lui-même, son père n'attend pas un discours parfaitement formulé de repentance, de bonne théologie. Non, son père court devant de lui, l'accueille parce qu'il voit le lumignon. Il voit signe de vie, de retour, de repentance. Quelqu'un qui s'est éloigné de Dieu, quelqu'un qui refroidit dans sa foi. S'il est vraiment enfant de Dieu, Jésus sait être patient et entretenir la flamme, le ramener. Quelqu'un qui apprend à prier. C'est beau de penser que Jésus n'exige pas des prières parfaites avant de les exaucer. Dieu peut donner du sens à une prière confuse. En tout cas, c'est toujours l'invitation de revenir. Une des phrases qui est marquante dans ce livre, Roseau cassé de Sibes, il y a plus de miséricorde en Christ que de péché en nous. Alors, quel que soit l'état du roseau, de lumignon, sachez qu'il y a plus de miséricorde en Christ que de péché en nous. quelqu'un qui lutte avec telle ou telle tentation. Jésus ne nous demande pas plus que nous ne sommes capables. C'est même lui qui donne ce qu'il demande. Alors il nous prend où nous sommes, avec le niveau de flamme, de foi, de force que nous avons, et puis il le fait grandir. Encore une belle citation. Soyons reconnaissants à Dieu pour la moindre mesure de grâce que vous discernez dans votre propre vie, dans la vie de vos frères et sœurs. Des fois, on exige qu'il y a beaucoup de grâce avant d'être, mais nous pouvons être reconnaissants à Dieu pour la moindre mesure de grâce. Trouvez intéressant, et Sibbes nous invite à reconnaître 3 niveaux de victoire dans la lutte contre les tentations et le mal, le péché, en fonction de notre maturité spirituelle, de notre cheminement avec Jésus comme roi. Déjà, et on discerne déjà à chaque niveau la trace de cette flamme que Jésus n'éteint pas et qu'il entretient. Premier niveau, c'est déjà résister, sans succès souvent, mais c'est déjà résister contre les tentations et le mal. Et ça, on peut déjà célébrer cette lutte, parce que quand il n'y a pas l'Esprit de Dieu en nous, quand on ne pense même pas à Dieu, à Jésus, il n'y a même pas de lutte. Donc c'est déjà un premier niveau de victoire que la lutte s'installe et qu'on reconnaît que ça ne plaît pas à Dieu et je veux lutter contre. Parfois sans succès, souvent sans succès, mais la lutte est là, c'est trace de vie. Deuxième niveau, c'est résister et remporter, difficilement, péniblement. Mais gloire à Dieu, il nous donne la force pour aimer Jésus davantage et rejeter le péché. Ça, c'est un deuxième niveau de victoire et on est reconnaissant pour ça. Et puis, troisième niveau de victoire, c'est ne plus être tenté par cette tentation-là. Et là, on voit que Dieu nous a vraiment transformés. Mais entre frères et sœurs, nous pouvons savoir que chacun est à peut-être un stade différent. Et chacun ne lutte pas avec les mêmes tentations. Et donc, nous pouvons toujours encourager et faire confiance à Dieu pour nous amener plus loin. Une question d'éthique d'actualité. Que faut-il faire si vous voyez un moustique sur le front de votre voisin? Qu'est-ce qu'il faut faire, hein? Si c'est le conjoint ou un ami, est-ce que si vous dites lentement, je crois que vous avez un moustique sur le front, peut-être, bon là, c'est trop tard. Alors, faut agir vite, mais doucement, c'est. Mais ça, c'est déjà en 1631, Richard Sibbes le disait, on ne tue pas un moustique sur le front avec un marteau. Petit conseil. Et des fois, dans la manière d'aborder l'autre, on voit peut-être un problème, un péché, un écart, mais comment Jésus se prendra-t-il? Des fois, il est patient, il est doux, il est tendre avec nous, tout en reconnaissant le danger. Et puis plus le danger est imminent, plus il faut réagir rapidement. Et on le voit à travers du ministère de Jésus, même dans notre chapitre 12. Jésus, il pouvait être très tendre et doux avec comme ce démoniaque, comme cet homme avec la main sèche, mais aussi sévère avec les pharisiens. Il les appelle race de vipères dans ce même chapitre. Donc Jésus pouvait être sévère avec ceux qui auraient dû mieux savoir, ceux qui n'avaient pas d'excuses, ceux qui étaient hypocrites, ceux qui se croyaient forts. Là, effectivement, Jésus le roi pouvait être sévère. Mais pour ceux qui démarraient dans la foi, ceux qui s'approchaient de lui, ceux qui reconnaissaient leurs besoins de lui, il était rempli de douceur et de tendresse. Donc si vous avez, vous, cette promesse que Jésus ne vous brise pas, ne vous éteint pas, ne vous brisez pas vous-même. Bon conseil encore de Richard Sibbes, j'aimais bien cette citation. Puisque Jésus veut nous faire grâce, ne soyons pas cruels envers nous-mêmes. Dans ce domaine, certains sont aussi fautifs que s'ils avaient été embauchés par Satan, l'accusateur des frères, pour plaider en sa faveur en s'accusant eux-mêmes. Donc si vous vous reconnaissez un lumignon qui fume, un roseau cassé, N'allez pas casser davantage, n'allez pas éteindre davantage, mais saisissez la promesse en Jésus-Christ qu'il il les veut, ces roseaux cassés, ces lumignons qui fument, et il veut les entretenir et les rendre plus forts. Ce qui nous amène à notre dernier point. Ces roseaux cassés, ces lumignons qui fument, que vont-ils devenir? Que peuvent-ils devenir en Christ? Et le verset dit, il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice et les nations espéreront en son nom. Ce verset, déjà 20, et puis toute cette situation, envisage un avenir triomphant pour le peuple de Jésus, et y compris ces roseaux cassés, ces lumignons qui fument. Il va faire triompher la justice, il va faire espérer les nations en son nom. Donc, on voit bien, la faiblesse spirituelle n'est pas une fin en soi. C'est Jésus est en train d'accomplir quelque chose de plus grand. Et c'est là où c'est utile de reprendre l'ensemble de la prophétie, de la citation d'Ésaïe, où il dit déjà en verset 18, « Voici mon serviteur que j'ai choisi. » Mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir, je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir, je mettrai mon esprit sur lui. Donc là, c'est utile de comprendre un peu cette idée du serviteur de l'Éternel, c'est un grand thème dans le livre d'Ésaïe. Ce serviteur de l'Éternel, c'est ce personnage messianique qu'Ésaïe annonce. Et si vous voulez voir l'ensemble de la citation, ça va encore plus loin en Ésaïe 42. Donc, ce serviteur qui bénéficie de tout l'amour, il est le bien-aimé du Père et il bénéficie de tout l'Esprit. Il a l'Esprit sur lui, donc il y a le Père, celui qui le Père aime de son Fils et le Saint-Esprit. Donc, déjà, ça nous pointe vers... notion chrétienne du Dieu trinitaire. Mais ça dit, il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point la mèche qui brûle encore, il annoncera la justice selon la vérité, il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. On saisit de telles promesses pour les îles comme Mayotte, et que les îles espèrent en sa loi. Et puis, un verset plus tard, verset 6, c'est l'Éternel qui parle à ce serviteur. Et il dit, moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, je te prendrai par la main, je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles. En fait, si ici Ésaïe décrit ce serviteur de l'Éternel, et puis tout au long de son livre, il complète le portrait de ce personnage messianique. Et quand on met tout ça ensemble, il est le bien-aimé du Père. Il bénéficie de tous les Saint-Esprit sur lui. Et puis voilà comment il va faire dans sa mission et dans son comportement pour être la lumière des nations. Donc Ésaïe décrit ici quelqu'un qui va réussir parfaitement la mission d'apporter le salut, la justice et la lumière sur la terre. Il sera investi de toute la puissance de Dieu, toute l'approbation de Dieu. Et pourtant, on parle d'un serviteur, qui s'efface, un serviteur qui ne crie point, qui parfois un serviteur qui n'ouvre pas la bouche. Donc on parle d'un roi très puissant, mais aussi un roi serviteur. Déjà, ça nous intrigue, c'est qui ce personnage-là? Et puis, quelques chapitres plus tard, Ésaïe va continuer à donner le portrait de ce serviteur. Et là, on apprend en chapitre 53 que ce serviteur qui, lui, ne brise point le roseau cassé, qui n'éteint pas le lumignon qui fume, on dit que lui-même sera comme une faible plante, Ésaïe 53. Et que lui-même sera brisé pour nos iniquités. Que lui-même sera mis pour un temps dans un tombeau où effectivement la lumière semble s'éteindre complètement. Mais ensuite, déjà selon Ésaïe, puis selon ce que nous savons de ce parcours du Messie, il est mis dans un tombeau pour un temps, mais après, il ressuscite, la lumière rejaillit. Et en cela, il entraîne son peuple avec lui. Et c'est pour ça que cette promesse peut devenir vraie. On sait ce que peuvent devenir les roseaux cassés, les lumignons qui fument, parce que Jésus lui-même, devenu un roseau cassé, brisé, il ressuscite lui-même une lumière qui s'éteint, il devient lumière des nations et après, il entraîne tout son peuple avec lui. Et en Ésaïe, nous avons des belles prophéties aussi où non seulement c'est Jésus qui est lumière des nations, mais son peuple avec lui. En Ésaïe chapitre 61, par exemple, ça parle des affligés, des abattus, comme ces roseaux cassés, qui seront appelés des térébintes de justice, des arbres de justice, des chênes de justice. Donc, le roseau cassé devient chêne solide. Ou en Ésaïe chapitre 62, cette fois-ci, Dieu dit au sujet de son peuple, pas juste de son Messie, mais de son peuple, il dit... Je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Et maintenant, c'est le peuple qui est flambeau. Ce peuple qui était lumignon qui fume, il est flambeau grâce au Messie, grâce au salut. Donc, vous voyez, nous voulons saisir cette promesse encore ce matin. Le lumignon en Christ devient un flambeau. Le roseau cassé devient un arbre solide. Bien sûr, c'est peut-être un travail que Dieu accomplit en douceur, en patience. Comme ces versets disent, il ne va pas se décourager, il ne va pas se relâcher jusqu'à ce qu'il accomplisse ces choses. Donc ça veut dire qu'il y a parfois un temps de patience. Donc au niveau d'une vie, des fois ça prend tout le temps pour que notre foi devienne ce flambeau. Mais Jésus sait prendre le temps qu'il faut, 10 ans, 5 ans, 20 ans, quelques mois, quelques années. Pour son peuple, parfois c'est sur des siècles. Maintenant, ça fait depuis 2000 ans même que son peuple se trouve souvent des fois dans un état de faiblesse, de fragilité, mais il la garde et il prévoit de la restaurer, de le relever complètement un jour pour qu'elle remplisse la terre, pour qu'il remplisse la terre. Donc je vous laisse avec une dernière citation pour vous encourager. Quelle confusion, quelle honte pour Satan de savoir que la petite étincelle qui fait tout pour éteindre sera plus forte que les portes de l'enfer et servira à le mettre en déroute. Ça c'est vous. Ça, c'est nous, ça, c'est les chrétiens en France, les chrétiens dans ce monde, individuellement et collectivement. Voilà votre destinée si vous êtes à Christ. Donc, si ce Jésus-là aime et accueille les roseaux cassés et les lumions qui fument que nous sommes, pourquoi ne pas venir à lui, lui confier notre vie, le demander de prendre nos faiblesses, nos échecs et ces vases d'argile que nous sommes pour en faire des choses merveilleuses qui resplendissent déjà ici-bas et surtout dans l'éternité. Que Dieu vous bénisse. Prions. Seigneur, nous te remercions pour Jésus-Christ, nous te remercions pour ce qu'il est, son caractère, nous te remercions qu'il se distingue de tous les autres sauveurs, toutes les autres religions, ce qu'il est. Et il apporte cette tendresse, cette douceur. Il sait agir parfaitement envers les fragiles que nous sommes. Nous te apportons ce matin nos blessures, nos faiblesses, nos échecs, notre péché. Surtout, c'est ça qui nous rend faibles. Et nous te prions nous te remercions de ce que tu nous accueilles parfaitement en Christ pour nous restaurer. Nous avons la preuve que tu peux redonner vie et force à des gens faibles comme nous, puisque tu as fait pour Jésus-Christ. Il est mort sur la croix dans la faiblesse, mais il est ressuscité dans la puissance. Et nous voulons nous greffer sur lui et retrouver vie et force et salut encore ce matin. Bénis notre assemblée pendant cet été et que notre Église continue à rayonner, à être une lumière pour les nations. Parfois faiblement, mais nous savons que tu sauras transformer une petite étincelle, une petite bougie peut devenir un grand flambeau. C'est ce que nous croyons que tu feras à Mayotte avec la famille Nioche et chacun de nous là où tu nous places. Nous te reconfions nos vies pour que tu en fasses ce que tu veux. Nous te remercions au nom de Jésus-Christ. Amen.